Bien, ben, je vous souhaite le bonjour, la bienvenue au sein de l'équipe de l'Espace Mendès France, que je remercie de m'avoir invité, d'avoir l'opportunité de donner quelques informations à des jeunes qui sont scolarisés donc à Poitiers et qui, je l'espère, feront de grandes choses dans leur vie. C'est tout ce que je vous souhaite, avoir des vies épanouies, des vies personnelles et des vies professionnelles épanouies. Alors quand vous êtes au collège, déjà on vous demande de faire des choix d'orientation, ce qui n'est pas si facile que ça, ou parfois on a des choix déjà bien arrêtés qui vont peut-être évoluer et complètement changer après, mais ce n'est pas grave. L'essentiel ici à votre stade, c'est de commencer à réfléchir aux choses. Alors moi je suis ici pour témoigner d'un grand phénomène de société, le fait qu'il n'y ait pas assez de filles qui poursuivent leurs études supérieures et qui occupent des postes importants. Et le fait aussi que les garçons ne vont pas vers certains métiers qui sont étiquetés métiers de filles. Et c'est tout à fait dommageable pour la société, aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de filles dans de nombreux métiers et c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de garçons dans certains métiers où il n'y a que des filles. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que moi je suis neuroscientifique. Je travaille sur le cerveau, je travaille aussi avec des psychologues, avec tout un tas de spécialistes et on se rend bien compte que la mixité est une source de richesse pour la société et non pas une source d'appauvrissement et que la situation actuelle finalement peut conduire à des catastrophes dans le sens où on va manquer de scientifiques. On commence déjà à manquer de scientifiques et on est obligé de recruter le plus possible à l'extérieur, dans les pays étrangers. Mais même dans les pays étrangers, ils ont du mal à trouver des scientifiques. Et donc, on va se retrouver à un moment ou à un autre en grande difficulté dans nos sociétés d'aujourd'hui. Donc, j'ai intitulé ma conférence « Les sciences, c'est aussi pour les filles ». C'est un peu de la provocation, c'est pour faire bouger les filles. Et j'ai l'impression comme ça, à vue de nez, qu'il y a plus de filles dans cette salle que de garçons. Et que le peu de garçons qu'il y a, ils sont assez dissipés. Donc c'est dommage, hein, finalement, voilà, qu'ils fassent les clowns et qu'ils ne captent pas l'essentiel du message qu'il y a ici. Donc ce qui serait bien, c'est que tout le monde écoute et que vous me posiez éventuellement des questions après. Moi, je serais prête à y répondre. Bon, alors je me présente rapidement. Donc je m'appelle Patricia Arnaud, comme vous le voyez, vous avez mon adresse mail. Vos enseignants, s'ils ont besoin de me contacter, n'hésitez pas. Je suis enseignant-chercheur à la Faculté des sciences, à l'Université de Poitiers. Donc ça veut dire que j'enseigne à des étudiants qui sont de la première année jusqu'à la cinquième année après le bac. Et je fais de la recherche, et je fais de la recherche en particulier maintenant sur les cellules souches neurales, puisqu'on étudie les processus de cancérisation, les processus de défaut de développement et les processus normaux aussi de mise en place de ces cellules. Puisqu'on a un grand espoir dans les cellules souches, probablement d'ici 10 ou 20 ans, mais pour l'instant, on fait de la recherche fondamentale là-dessus. Bien. Alors, je suis présidente d'une association nationale qui s'occupe de la qualité de l'enseignement scientifique en France, qui travaille là-dessus. Je suis membre de la Société des neurosciences, puisque je suis neuroscientifique, neurophysiologiste en particulier. Et puis, je fais partie d'une association qui s'appelle Femmes et Sciences. C'est une association, il y a des hommes et des femmes, et dans laquelle on travaille justement pour promouvoir les sciences auprès des jeunes filles et expliquer que les stéréotypes de la société ne doivent plus influencer nos choix, et en tout cas vos choix à vous, jeunes hommes et jeunes filles. Bien, alors si vous voulez, je vais vous raconter une petite histoire et puis vous essaierez d'en tirer bénéfice. Donc voilà, d'abord un premier constat, le constat à faire aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande désaffection des études scientifiques dans l'enseignement supérieur, quelles que soient les branches. D'accord ? Alors, ce constat, il n'est pas seulement poitevin, parce que nous, au départ, on l'a fait au niveau de Poitiers et du Poitou-Charentes. Il est bien sûr national, il est européen, il est mondial. C'est-à-dire que dans tous les pays de la planète, actuellement, il y a un manque d'étudiants qui vont vers les études scientifiques. Voilà. Donc, et pourtant, quand on regarde les chiffres, alors je ne vais pas vous assommer avec des tableaux de statistiques, ce n'est pas le but, mais je veux juste faire ressortir des choses importantes. D'abord, il y a la quasi-parité femmes-sciences, enfin femmes et garçons, pardon, filles et garçons en terminale S. Ça veut dire qu'il y a autant de filles que de garçons en terminale S. D'accord ? Et alors, on se demande pourquoi, au final, il n'y a plus qu'un quart des diplômés de Bac plus 5, donc la fin du cursus normal de l'enseignement supérieur, hein, on ne compte pas le doctorat, la thèse, eh bien, il n'y a plus qu'un quart de filles dans les diplômés. On se demande bien pourquoi. Il n'y a pas de raison. Elles réussissent aussi bien que les garçons. Donc, il y a beaucoup de recherches, c'est un problème reconnu, il y a beaucoup de recherches et de campagnes qui ont lieu là-dessus pour essayer de comprendre les choses. Alors, le premier constat, c'est quand même que l'orientation est très stéréotypée. C'est-à-dire que les garçons vont aller vers des filières de production, de mécanique, d'informatique, les filles plutôt vers des filières du tertiaire, des filières littéraires, tout ce qui est un peu humanitaire, voilà. C'est très dommage. En informatique, par exemple, il manque 700 000 postes en Europe. 700 000 postes. Donc si les filles ne s'y mettent pas, on n'en aura pas assez. On n'aura pas de quoi fournir les besoins européens, rien que dans le domaine de l'informatique. Et je ne vous dis pas les autres domaines. Donc, allez-y. Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour les garçons, mais il y a aussi de la place pour les filles, on a besoin des filles. Les enjeux, donc, je vous l'ai déjà un peu dit, c'est pas d'abord parce qu'il va falloir remplacer le départ massif en retraite de beaucoup de scientifiques qui ont pris leur poste, qui se sont installés finalement, ou qui ont commencé leurs études scientifiques après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça veut dire qu'on va avoir un grand trou dans les générations ici, puisque les jeunes ne vont pas vers la science. Et pourtant, on a de grands défis sociétaux à relever. C'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup de personnes qualifiées, puisqu'il faut travailler sur des solutions de technologie avancée, comme je vous l'ai écrit sur la diapo, puisqu'on a des soucis pour gérer l'eau, pour trouver de l'eau dans les années de sécheresse, mais pour la gérer aussi, pour l'énergie, vous avez tous entendu parler des débats sociétaux à propos de l'énergie, pour l'alimentation, pour le réchauffement climatique, le développement durable, la santé, etc., etc. La communication, bien sûr, et la connaissance. Donc tout ça, c'est très important pour notre société d'aujourd'hui et notre société de demain. Et donc, il va falloir trouver des scientifiques pour travailler là-dessus. Vous avez peut-être entendu parler à un moment d'une partie de l'aéroport d'Orly qui s'était cassé la figure, hein, le toit s'était écroulé. Alors voilà le genre de choses auxquelles on peut assister si on n'a pas suffisamment de scientifiques. C'est qu'au bout d'un moment, il n'y a pas suffisamment de compétences pour assurer les services, mais surtout la sécurité. Et à partir de ce moment-là, ça devient dangereux pour tout le monde. D'où le besoin de ces scientifiques. Alors l'objectif 2020 de l'Union européenne, c'est de produire le plus possible de scientifiques, parce qu'on veut une économie fondée sur la connaissance, et donc beaucoup de diplômés en sciences, en maths, en ingénierie. Ingénierie, ça va de la bio aux maths, il y a toutes les filières, mais il y a aussi certains aspects des sciences humaines et sociales, hein, qui sont de la science aussi, donc vers lesquels vous pouvez vous diriger. Donc le vivier des femmes est insuffisamment exploité dans les pays occidentaux, et donc il faut former davantage de filles, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de filles qui aillent vers les sciences. Alors, j'ai envie de dire que les garçons continuent à y aller, voire en biologie, qu'il y en ait peut-être un peu plus, parce qu'on assiste un petit peu à beaucoup de filles en biologie, maintenant un peu moins de garçons peut-être qu'avant. Et néanmoins, les filles ne vont pas forcément jusqu'au bout. Or, après, on finit par manquer de scientifiques en biologie aussi. Alors, vous allez me dire, pourquoi on en est on est à ce niveau et dans cette situation ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un phénomène d'invisibilité des femmes dans les sciences. Si vous regardez vos livres à l'école, on vous parle beaucoup d'hommes célèbres, pas beaucoup de femmes. Vous connaissez une femme célèbre qui a fait des sciences ? Oui ? Et vous en connaissez d'autres ? Ben voilà. Vous êtes en plein dans le stéréotype. On prend Marie Curie, il y a Marie Curie, mais c'est la seule. Mais non, c'est pas la seule. On est des milliers de scientifiques, des milliers, des millions de scientifiques à travailler. Il y a des milliers de femmes qui ont fait de grandes choses en sciences. Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on ne parle que des hommes ? Donc, ça s'explique, bien sûr. Hein, il y a de la recherche qui est faite là-dessus. D'abord, il y a le filtre de l'histoire, parce que dans l'histoire, on considérait que les sciences étaient un domaine réservé aux hommes. Les femmes n'y avaient pas accès, n'avaient pas accès non plus à la formation, à l'université, à aller à l'école, d'accord ? Donc là, il y a le filtre de l'histoire. Et il y a le poids de la société, des stéréotypes, parce qu'on pense que les filles ne sont pas forcément faites pour les sciences. Voilà. Donc on va essayer de discuter un peu de tout ça. Donc j'ai envie de dire, derrière un homme se cache forcément une femme. puisque dans les grands projets, dans les grandes découvertes, il y a eu souvent des femmes associées à ces découvertes. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que ces femmes se cachent vraiment ou est-ce qu'on les cache? Alors, deux petits exemples là. Lise Meitner, elle a découvert la fission nucléaire. Pourtant, elle n'a pas eu le prix Nobel, c'est Hahn qui l'a eu en 1944. D'accord? Un autre exemple célèbre, Rosalind Franklin, qui a découvert la double hélice de l'ADN. Mais personne n'en parle. On vous parle de Watson et Crick, en SVT. On vous parle de Wilkins, éventuellement. Donc, Crick et Watson et Wilkins, qui ont eu le prix Nobel en 1962. Et elle est morte 5 ans avant. Et elle n'a pas été associée, même post-mortem, à ce prix Nobel. Donc là, on peut se poser des questions. On peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Pourquoi cette injustice? Alors moi, je vais vous parler de femmes, justement, comme on parle toujours de femmes, de Marie Curie, mais même dans l'histoire des femmes, on prend toujours les mêmes exemples. Mais moi, j'en ai deux. C'est mes préférés, je vais vous dire. D'abord, il y a Ada Byron. Ada Byron, c'est celle qui a inventé l'informatique. Qui parle d'une femme qui aurait inventé l'informatique? Personne. Ses travaux sont restés dans l'oubli dans les années 1950, où là, les Américains ont découvert ses écrits et se sont dit, mais c'est formidable ce qu'elle a fait. Et si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et donc, ils ont décidé de donner son nom au fameux langage informatique, ADA, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui servait beaucoup à l'époque, en particulier au niveau du ministère de la Défense. Voilà. Donc, les gens savent ce que c'est que le langage ADA, langage informatique, mais ne savent pas d'où ça vient. Et Ada, c'était le prénom d'Ada Byron, tout simplement. C'était une jeune Anglaise qui était féru de mathématiques, qui n'avait bien sûr pas accès à l'école, puisque c'était interdit. Sa mère, était aussi féru de sciences, s'était formée toute seule ou avec des précepteurs, parce que seuls les gens de la haute bourgeoisie pouvaient payer des précepteurs et se permettre de faire former certaines filles. Et donc Ada, elle, s'est complètement passionnée. Et puis, elle a rencontré une femme célèbre, Mary Somerville, qui a écrit un livre très célèbre aussi, un traité sur la mécanique céleste, et qui, du coup, lui a dit, mais vas-y, si tu adores les mathématiques, vas-y, fonce. Donc, ça l'a beaucoup encouragée à transgresser les codes de la société. En fait, elle a fait l'inverse de ce que les autres lui disaient de faire. Au lieu de rester tranquillement chez elle à broder et à faire des enfants, eh bien, elle a fait des sciences. Ça ne l'a pas empêchée de se marier, et elle a eu 3 enfants, 3 beaux enfants, tout à fait normaux, pas de problème. Bien. Et donc son papa, il était poète, donc pas du tout scientifique. Donc au début, c'était un peu gênant que sa fille se lance là-dedans. Et puis elle a rencontré donc Charles Babbage, qui était donc un inventeur, et qui lui avait pensé inventer une machine qui ferait du calcul automatique, donc qui assurerait la qualité des calculs, et qui permettrait de faire beaucoup de calculs en peu de temps. Seulement, il avait l'idée, il avait le concept, mais il n'arrivait pas à le faire. Il n'arrivait surtout pas à programmer sa machine qu'il avait inventée. Et en discutant avec Ada, ils ont trouvé finalement des solutions. Et elle a été bien plus loin. Et donc, elle a écrit. C'est pour ça qu'on a des preuves que c'est bien elle qui a inventé tout ça. Et puis, elle a programmé la machine. Et pour la première fois, la machine a fonctionné. Et c'est parti comme ça. Donc, elle a été la première femme à écrire un langage informatique. Et donc, à faire fonctionner ce qui est devenu maintenant l'ordinateur moderne. Voilà. Et donc ça, peu de gens le savent. Et elle s'appelait aussi la comtesse de Lovelace, tout simplement, parce que son mari s'appelait le baron ou le comte, je ne sais plus, de Lovelace. Voilà. Mais son nom de jeune fille, c'est Ada Byron. Donc j'espère que vous vous rappellerez de l'histoire de Ada. Et que quand vos profs d'informatique vous casseront un peu les pieds, vous pourrez peut-être leur parler de Ada et de dire que les filles aussi sont douées en informatique. Il faut juste leur laisser la chance d'être bonne en informatique et pas dire qu'il n'y a que les garçons qui sont bons en informatique. Et là, je vais vous expliquer encore quelque chose tout à l'heure. Le deuxième exemple, là, je passerai plus vite, mais j'en parle quand même parce qu'elle, c'est une Française, une Corrézienne, qui a perdu sa maman quand elle avait 18 ans et donc qui a pris son chemin et à pied, elle est partie de la Corrèze jusqu'à Paris pour trouver du boulot. Et elle a fini brodeuse dans un atelier, ce qui était tout à fait normal à l'époque, tout à fait attendu. Mais elle adorait les sciences, mais elle n'avait vraiment pas les moyens de le faire. Bon. Donc, elle a fait brodeuse. Et là, elle a rencontré un marchand irlandais qui vivait en Sicile. Et ils sont tombés amoureux. Et du coup, hop, ils se sont mariés. Ils sont partis vivre en Sicile. Et là, en Sicile, elle avait de l'argent. Et donc, elle a fait ce qu'elle a voulu. Et du coup, elle s'est mise à sillonner la Sicile dans tous les sens, à faire des études de la faune et de la flore, et à écrire tout un tas de choses là-dessus. Et puis, finalement, elle s'est passionnée pour un problème scientifique de l'époque. C'était l'argonaute, donc un céphalopode. La grande question à ce moment-là, c'était de savoir si cet argonaute fabriquait lui-même sa coquille ou s'il faisait comme les Bernard l'ermite, allait juste tout simplement squatter une coquille d'une autre bestiole. Bon. Donc c'était le grand débat et tout le monde disait que non, l'argonaute était comme le Bernard l'ermite. Et elle, en observant les argonautes en Sicile, bien, elle se disait mais non, c'est pas possible, c'est l'argonaute qui fabrique sa coquille. Donc elle s'est lancée là-dedans. Elle a inventé l'aquarium. C'est elle qui a inventé l'aquarium. Là aussi, personne ne le sait. Donc, des aquariums qui vont comme ça sur une table dans une pièce, mais des aquariums qui vont aussi au fond de l'eau et qui résistent à la pression de l'eau, ou des aquariums qu'on met sur la plage, tout simplement, le temps de récolter des animaux. Donc, elle avait inventé tout ça. Et puis, donc, elle s'est finalement attachée à travailler sur ces argonautes et elle a démontré qu'effectivement, l'argonaute fabriquait lui-même sa coquille. Mais ça n'a été reconnu qu'après des années, puisque un de ses charmants amis à qui elle avait confié son travail pour le présenter à l'Académie des sciences et au muséum, eh bien, une fois à Paris, il lui a dit « Attends, je vais mettre mon nom ». Donc, il a pris les travaux, les résultats, et il a présenté les travaux. Mais mal, puisque ce n'est pas lui qui avait fait le travail. Et du coup, il s'est planté, et au muséum, on lui a dit « Mais vous racontez des bêtises, c'est archi faux ». Donc, il était très penaud, il est revenu en Italie en disant « Bah, finalement, ta thèse n'est pas acceptée. » Bien. Alors elle ne comprenait pas trop, bon, elle n'était pas très contente, mais elle dit « il n'y a pas de raison », mais elle ne savait pas qu'il avait usurpé son nom. Et un jour, en voyage à Paris, elle a rencontré, on va dire, le président du muséum, le directeur du muséum, qui lui a expliqué, d'abord, c'est comme ça qu'elle a compris que l'autre lui avait piqué ses résultats, puis qu'il lui a expliqué que ses résultats devaient être faux, qu'il fallait qu'elle refasse ses expérimentations. Donc elle était sûre d'avoir raison, mais c'est pas grave. Elle a refait des expérimentations, elle a glané encore des données qui allaient dans son sens. Et finalement, le responsable du muséum, du British Museum, un Anglais qui la connaissait, lui a décidé de présenter ses travaux en France. Parce que le problème, c'est comme c'était une femme, elle n'avait pas le droit d'entrer dans ces grandes assemblées. Et il a présenté ses travaux, et là, cette fois-ci, ça a été reconnu. Et donc, elle est devenue célèbre pour avoir résolu ce problème, malgré toutes les difficultés. Et là, elle a été reconnue, après, par le monde des scientifiques. Je ne vous dis pas la galère. Elle aurait mérité d'être reconnue bien avant. Bon. Et puis, pour la petite histoire, c'est que quand elle est rentrée d'Italie en France avec son mari, il y a eu un naufrage. Et malheureusement, tout ce qu'elle avait gardé, tous les animaux qu'elle avait, on va dire, empaillés ou qu'elle avait dessinés, tous les travaux qu'elle avait écrits, la majorité se sont perdus dans le naufrage. Et donc, il ne reste pas grand-chose au niveau de ses écrits. Et en particulier, il reste cette belle gravure qu'elle a faite elle-même sur l'argonaute. Donc, non seulement elle était bonne en sciences, mais en plus, elle était très, très bonne dessinatrice. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Bien. Alors, revenons à nos jours. Alors, on se dit, bon, bah, ça, c'était au 19e siècle tout de même. Maintenant, les choses ont changé. Au 21e siècle, c'est tout à fait différent. Pas tout à fait encore, on va dire. Ça commence, ça vient, et on est très content que ça évolue, mais ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de femmes encore dans les domaines scientifiques, et surtout, elles ne sont pas suffisamment reconnues. Mais ça progresse, ça progresse. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a une ségrégation au niveau des disciplines. Hein, on sait bien que dans les disciplines, au lycée, au collège, quand une jeune fille de votre âge dit « mais moi, je veux faire de la mécanique », c'est pas bien vu. Puis d'abord, ses copines disent « bon, non, mais ça ne va pas la tête pour faire de la mécanique, non ?» Bon. Ça veut dire quoi, de la mécanique ? La mécanique, il y a la mécanique sous la voiture avec le cambouis et tout, quoique maintenant, hein, c'est de plus en plus électrique. Et puis, il y a la mécanique, la vraie mécanique scientifique, c'est quoi ? Ben, c'est des mathématiques et de la physique. Donc, il n'y a pas à avoir d'a priori. Les filles sont autant capables que les garçons d'en faire. Il y a les croyances qui sont véhiculées par la société. Il y a les familles aussi. Quand des familles viennent nous voir pour demander conseil sur l'orientation, on va plutôt dire aux garçons, aux fils, oh « Oui, oui, lui, il va faire des sciences. » Elle, « Oh, ben non, on va peut-être pas faire des sciences, on va peut-être faire, je sais pas moi, de l'histoire ou des langues, du secrétariat, tiens. » Ou là, il y a bien trop de filles et pas assez de débouchés. Arrêtez d'aller faire du secrétariat, les filles. Arrêtez. Hein. Bon. Mais s'il y a des garçons qui se présentent, ils auront le poste en plus. Parce qu'il y a pas beaucoup de garçons. Donc on va plutôt recruter les garçons au lieu de la fille. Alors attention à ça. Bon, l'image du savant, c'est plutôt un garçon, enfin un homme. En général, il est assez moche en plus, hirsute, avec des lunettes. Enfin bref, puis tout seul, surtout dans son laboratoire. Alors c'est pas du tout ça les sciences. Les sciences, c'est tout le monde travaille en groupe, en équipe. C'est sympa, on boit le café ensemble, on fait des petites fêtes aussi. On travaille beaucoup, mais on fait des petites fêtes. Bien. Bon, ce que je voudrais vous faire comprendre de ce matin, c'est que... Chut, allez, on reste un peu concentré, s'il vous plaît. La majorité des femmes actives, elles se concentrent sur à peu près 12 familles de métiers, sur 87 qui ont été répertoriées en France. Donc vous voyez que les femmes, elles n'occupent qu'une toute petite partie de la vie professionnelle. Elles pourraient prendre beaucoup plus de place dans la société. Et au final, il y a à peu près, allez, je suis généreuse, 32% des ingénieurs et des chercheurs en France, en Europe, au Canada, enfin dans le monde, qui sont des femmes. Donc, si vous n'avez pas encore compris, vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors tout ça, c'est dû aux stéréotypes, bien sûr, qui ont la vie dure. Qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype ? C'est une idée reçue, construite par la société. C'est quelque chose qu'on vous met dans la tête dès que vous êtes toute petite. Si vous, les filles, vous demandez un camion à Noël, on va vous dire, oh ben non, on peut t'acheter un camion. Si les garçons disent, moi, je veux un poupon ou une dinette, on va dire, ben non, vous voyez, il y en a qui rigolent. Ben pourquoi ? Il y a bien des garçons qui deviennent cuisiniers, il y a bien des garçons qui sont puériculteurs, il y a bien des garçons qui enseignent à l'école maternelle, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi ce stéréotype et cette classification ? Vous avez des pages roses dans les albums pour les jouets, et puis des pages bleues pour les garçons, et puis voilà quoi. D'accord ? Bon, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Hein ? Vous l'avez vécu ça. Donc, essayez de transgresser un petit peu tout ça. Alors, ça tient aussi au fait qu'il y a des croyances scientifiques. Au XIXe siècle, on disait que les femmes sont moins intelligentes que les hommes parce qu'elles ont un cerveau plus petit, tout simplement. D'accord ? C'est archi faux, bien sûr. Alors moi, je suis neuroscientifique en plus. Je peux vous affirmer que c'est archi faux et que finalement, la différence, elle se rapporte à la masse. La différence de masse cérébrale, donc du poids, elle se rapporte à votre masse corporelle, tout simplement. D'accord ? Alors, je ne vais pas vous décliner toutes les études qui ont été faites là-dessus, mais allez, regardez la différence entre Einstein ou même Anatole France. 1 kilo, il est tout petit son cerveau, 1 kilo, d'accord ? La moyenne chez les femmes, c'est 1,3 kg. Et puis, il y a Tourguenieff, 2 kilos. Mais il fallait voir aussi Einstein et puis Anatole France, c'était des gens qui n'étaient pas très corpulents. Tourguenieff, c'était un Russe super costaud. Ben voilà, c'est en rapport avec le poids global de l'organisme. Alors, on démontre scientifiquement, bien sûr, que la variabilité au niveau du sexe, donc entre les hommes, est bien plus forte que la variabilité qu'il pourrait y avoir entre les hommes et les femmes. D'accord ? La même chose au niveau des femmes. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. De toute façon, ça n'a rien à voir. L'intelligence, elle a à faire avec quoi ? Avec votre cerveau qui se développe tout au long de votre vie. Puisque quand vous naissez, d'accord, quand vous naissez donc à 9 mois, vous n'êtes même pas à 20% du développement de votre système nerveux. D'accord ? Il faut attendre d'avoir 2 ans pour atteindre ces 20%. Donc ça veut dire que quand vous naissez, eh bien vous êtes tout à fait malléable et qu'on peut faire plein de choses avec vous. On peut vous apprendre tout un tas de choses et que vous allez apprendre du milieu dans lequel vous vivez. Donc si on vous habitue dès tout petit à des stéréotypes, malheureusement, vous allez former votre cerveau comme ça, d'accord ? Mais je vous rassure tout de suite, le cerveau, il est très plastique. On peut déformer les choses, changer les connexions qu'il y a dans le cerveau. Ce n'est pas un cours sur les neurosciences, mais si vous le voulez gérer dans les collèges, parlez de ça aussi. Et le cerveau, on peut le changer, on peut le modifier, tout simplement avec l'apprentissage, d'accord ? Donc même si on vous a appris des choses quand vous étiez petit et que maintenant, à votre âge, avec votre intelligence, votre savoir et votre esprit critique, vous pouvez avoir des avis différents et puis faire en sorte qu'on accepte votre avis. D'accord ? Donc ce cerveau, eh bien, il va évoluer. Et puis même si à 7 ans, vous avez déjà le cerveau qui ressemble au cerveau d'un adulte, on peut changer les connexions entre les neurones jusqu'à la mort. Et c'est l'intérêt de faire travailler son cerveau toute sa vie. Donc là, c'était juste pour vous montrer à quel point la densité des connexions change. Donc quand vous êtes à la naissance, il y a des neurones, mais il y a peu de connexions. Et quand vous êtes à 24 mois, il y a toujours les mêmes neurones. Il y en a qui ont disparu déjà, il y en a d'autres qui sont apparus. Et puis surtout, vous avez beaucoup, beaucoup de connexions. Et vous avez des cellules souches. Maintenant, on sait que les neurones peuvent être fabriqués, produits tout au long de la vie de l'individu. Pas en grande quantité, mais quand même. Bon, donc ce qu'il faudrait que vous reteniez aussi de ce matin, c'est la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que vous êtes capable de changer votre cerveau, les capacités de votre cerveau, tout au long de votre vie. Et heureusement, sinon il n'y aurait pas de rééducation pour ceux qui ont des accidents. Sinon, les personnes handicapées, si on, malgré le travail qu'on leur fait faire, ne pourraient pas progresser, etc., etc. Et l'apprentissage est une grande marque de la plasticité. Et vous êtes capable d'apprendre toute votre vie jusqu'à la fin. Bon, donc ça veut dire qu'il n'y a pas deux cerveaux identiques sur Terre et qu'on ne sait pas sur quelle loi biologique on pourrait affirmer que les filles sont moins intelligentes que les garçons. Il n'y a aucune justification biologique à ce dogme. Voilà. Donc, aucun, il n'y a même pas, même chez les jumeaux monozygotes, les deux cerveaux sont complètement différents. D'accord ? Puisque chacun fabrique son cerveau en fonction du contexte dans lequel il évolue. C'est très, l'environnement dans lequel on vit est très important, ce qu'on mange, etc., etc. Là, une petite expérience qui a été faite, il y en a plein, hein. il y en a des centaines et des milliers d'études là-dessus maintenant, qui montrent qu'en imagerie cérébrale, donc si on vous passe dans un appareil, par exemple en imagerie par résonance magnétique, mais il y a plein d'autres techniques aussi, on peut montrer que quand on vous donne un calcul mental à faire, eh bien, vous allez le faire à votre façon, à votre manière, suivant comment vous avez appris, comment vous vous en sortez pour vous sortir de, cet exercice. Et on montre bien ici qu'en prenant des femmes, eh bien, c'est complètement différent d'une femme à l'autre, et en prenant des hommes, c'est complètement différent d'un homme à l'autre. Et donc, il n'y a pas plus de différence entre les hommes et les femmes qu'entre les femmes ou qu'entre les hommes. D'accord ? Donc là aussi, on a démontré tout ça depuis longtemps. Alors, ces stéréotypes, vous en connaissez plein. Les Irlandais sont tous roux. Moi, je connais plein d'Irlandais, ils ne sont pas roux. Je connais aussi des roux, mais il y en a plein qui ne sont pas roux. Les femmes sont bavardes. Ah bah tiens, les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois, pas les hommes. Tout un tas d'âneries comme ça qui circulent encore, qui sont dues aux croyances populaires et qui ont été complètement démontées par des preuves scientifiques. Donc, ces stéréotypes, ils sont dangereux parce qu'ils sont réducteurs et surtout, ils vous brident au choix que vous allez faire, au choix de vie que vous allez faire. Alors, il y a tout un tas d'études qui ont été publiées. Il y en a une quand même qui vous concerne directement. C'est la menace du stéréotype. Alors, pourquoi ça vous concerne directement ? Parce que ça dépend comment vos enseignants vont se comporter avec vous quand ils vous donnent un exercice. Parfois, ça peut leur échapper. Ils vont pouvoir dire, ça, les garçons vont y arriver peut-être plus facilement que les filles. Ou pour les filles, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Mais ce n'est pas vous, bien sûr, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Je parle d'autres enseignants. Ou alors, on va donner plus facilement la parole à un garçon qu'à une fille, ou des choses comme ça. Donc, ce sont des attitudes normées qui sont très dévalorisantes pour les filles, parce que les filles, elles, inconsciemment, trouvent que finalement, elles n'ont pas la même place dans la société que les garçons, et ça va engendrer des problèmes, là aussi, quant à leur choix d'orientation, leur choix de vie après. Alors, cette menace du stéréotype, elle marche aussi pour les garçons. Imaginons que, on va être en plein dans les stéréotypes, que je vous distribue un bout de tissu, et une aiguille et du fil, et je vais vous demander de faire quelques points de couture, comme ça, pour voir. Bon, il y en a peut-être qui vont y arriver, les garçons, mais il y en a plein qui vont dire, oh, mais attends, c'est pour les filles, ça. Ils ne vont même pas arriver à enfiler le fil dans l'aiguille et puis planter ça dans le tissu. Pourquoi ? Parce que dans leur tête, c'est pas pour eux. Si on donne des Legos à une fille, on lui demande de construire un robot, non, je ne vais pas le faire, puis d'abord, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu l'habitude de faire ce genre de choses. Par contre, vous prenez des enfants dans le bush australien, vous les perdez en pleine nuit, et vous dites à la petite fille, au petit garçon, retrouvez la maison. Alors, si on fait ça, nous, en Occident, vous vous dites, ah mais non, les filles, elles vont se planter, elles ont une mauvaise organisation spatiale, elles vont se perdre. C'est le stéréotype qui prime dans nos sociétés. dans le bush, elles n'ont pas reçu ce stéréotype, eh bien la petite fille, par rapport aux étoiles, va se retrouver aussi bien que le petit garçon. Il n'y a aucun souci, ils vont arriver en même temps à la maison. Alors que dans nos sociétés modernes, occidentales, ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Donc on pourrait peut-être se poser des questions quand même. Donc cette menace du stéréotype, elle est grave. Elle est grave parce que vous êtes empreint de stéréotypes. Et donc, quand on vous dit que ben non, il n'y a pas de problème, vous pouvez y réussir, ben vous avez quand même cette menace qui plane et qui vous dit mais je vais réussir, mais il dit ça, mais finalement non, je sais bien que je ne suis pas capable, je suis une fille, donc je ne vais pas y arriver. Ou à un homme pour une tâche qui plutôt relève des filles, changer les couches d'un bébé ou des trucs comme ça, ou accoucher une femme ou des choses comme ça. Donc toutes ces choses-là, ce sont des stéréotypes. Et là, c'est grave parce que ça peut modifier votre degré de performance. D'accord ? Vous pouvez être beaucoup moins bonne dans votre performance, qu'elle soit intellectuelle ou manuelle, qu'un garçon, parce qu'on pense que vous êtes une fille et donc pas douée pour le faire. Ça se voit beaucoup dans les lycées professionnels, par exemple. Pour certaines tâches, la soudure, oh ben, attends, on va laisser ton camarade le faire parce que toi, tu vas peut-être pas arriver à le faire. Et puis finalement, non. Pourquoi ? Aucun problème, d'accord ? En discutant avec les enseignants du professionnel, on l'a bien fait ressortir. Il y a des expériences scientifiques pour montrer tout ça. Par exemple, dans une école où on apprend les mathématiques à haut niveau, eh bien, en 1999, on avait fait une étude, on avait dit... Dans un amphi où c'est mélangé filles et garçons, on leur a dit les garçons vont peut-être mieux y arriver que les filles, c'est probable. Ou alors, même pas, cette étude-là, je mélange avec une autre, cette étude-là, on n'a rien dit. On a dit vous travaillez, vous faites vos exercices, ce sont des exercices de mathématiques difficiles et on les a laissés faire. Et puis dans l'autre amphi, on leur a dit ce sont des exercices de mathématiques difficiles et aucune raison que les filles n'y arrivent pas. Tout le monde va y arriver de la même manière. Voilà, juste on vous dit ça. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a montré que les filles, leur résultat, dans le premier amphi, c'est celui-là. Les garçons, ils ont super bien réussi. Pas les filles. D'accord ? Parce que là, on leur a rien dit. Et donc, les filles, comme d'habitude, se sont dit, bon, ben, c'est des maths, c'est dur, on va peut-être moins bien y réussir que les filles, que les garçons. Alors que dans l'autre amphi, où on n'a pas fait de différence entre les filles et les garçons, les résultats sont quasi équivalents. Bon. Quand on a repris tout ça, on s'est dit, bon, mais il y avait peut-être des biais, il faudrait quand même refaire la manip, et puis de manière très rigoureuse. Donc c'est ce qui a été fait en 2010. On a fait la même chose avec des étudiants, non plus d'une université, mais d'une école d'ingénieurs, et dans lesquels ils font beaucoup de mathématiques. On a présenté les choses de la même manière. Le premier amphi, bon, les filles ont de meilleurs résultats, mais il y a un tel écart entre les garçons et les filles que ce n'est pas significatif par rapport à la première manip. Et puis, dans l'autre amphi, eh bien, vous voyez, les filles et les garçons ont aussi bien réussi. Donc ça veut bien dire que c'est la façon dont on va vous présenter les exercices, vous présenter la difficulté qui va moduler vos réussites. Dans les exercices de maths, on prend souvent des exemples liés aux activités des garçons et moins aux activités des filles. Mais on devrait ne pas non plus faire de différence ici. Un autre exemple, là, qui a été fait chez les plus jeunes. Donc, chez les plus jeunes... Alors des collèges comme vous, des collégiens, mais un peu plus jeunes, on va dire, hein, parce que vous êtes en troisième ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Donc on leur a donné une figure. Voilà. Alors cette figure, ils avaient une minute trente pour la prendre et cinq minutes pour la restituer sur un papier. Hein, ce que vous faites assez rapidement parce que vous avez un esprit très vif. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien. Dans une classe, on a dit, c'est une figure de géométrie. Et là, les garçons ont beaucoup mieux réussi que les filles. Alors que dans l'autre classe, on leur avait dit, c'est un dessin. Et là, les filles ont beaucoup mieux réussi que les garçons. D'accord ? Objectivement, quelle est la différence entre les deux ? OK ? Voilà. Bien. Etc, etc. Je pourrais rester jusqu'à 6 heures de l'après-midi pour vous dire tout ça. D'accord ? Bon. Alors... Donc ça veut dire que quand vous choisissez votre orientation, vous avez un souci parce que vous essayez de mettre en cohérence l'image que vous avez de vous-même, fille ou garçon, et comment vous vous comportez dans la société. L'image que vous voulez donner aux autres. Ah oui, mais si je dis que je veux faire de la mécanique, les autres vont dire, mais elle n'est pas féminine, c'est quoi cette fille ? D'accord ? Bon. Et puis, vous devez gérer ça avec l'image des filières. Bon, en biologie, oui, les filles veulent bien y aller. En mathématiques, en informatique, en électronique, bah, les filles vont nettement moins. Pourtant, c'est dommage, parce que là, on a besoin de beaucoup de filles, et que généralement, les filles sont prises en priorité aussi quand on postule sur un poste. Dans les filières où il n'y a pas assez de filles, on va privilégier les filles. Donc, et l'image du métier que l'on souhaite exercer. Non, mais oh, je ne vais pas travailler dans un garage, je ne vais pas travailler dans un grand hall hydraulique où on bosse et on fait de la recherche sur des trucs de puissance et tout ça. Je suis une fille quand même. D'accord? Bon, voilà. Je ne pourrais pas mettre de rouge aux ongles, je ne pourrais pas m'habiller en fille. Bah, et si, bien sûr que si. Il n'y a pas de souci. D'accord? Bon. Donc, tout ça, ça génère de grandes difficultés pour vous à transgresser ces codes sociaux. Mais c'est la même chose pour les garçons. Hein, il n'y a pas que les filles. Bon. Alors maintenant, je vais vous faire voir ça. À votre avis, c'est qui ces nanas-là? Il y a eu le salon de l'automobile il n'y a pas longtemps. Donc qu'est-ce qu'elles font, ces filles? Allez, exprimez-vous. Bon. Une autre idée? Bon. Ah ben, j'ai envie de dire, il y a de l'espoir. Parce que j'ai fait voir ça il n'y a pas longtemps à des adultes. Ils m'ont dit, oh, c'est des belles minettes pour vendre des voitures. Ça, c'est le stéréotype. Mais le jeune homme qui est là, on peut l'applaudir. Lui, il a dit, ce sont des ingénieurs. Eh bien oui, parce que lui, apparemment, ou alors il veut me faire plaisir, l'un ou l'autre, je ne sais pas. En tout cas, il a l'esprit ouvert, puisqu'il se dit, bah, ces filles, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, les trois qui sont ici sont tout simplement responsables de la conception, du design et de la réalisation de ce modèle au sein d'une équipe, hein, où il y a 8 personnes. Et puis ici, celle-ci, ben c'est la directrice, tout simplement. C'est elle qui a dirigé le projet. Hein. C'est un vrai projet réel. Je ne dirais pas la marque de voiture parce que je ne suis pas autorisée à faire de la pub. En tout cas, le modèle s'appelait YCC et c'est un vrai modèle qui a été entièrement conçu par les femmes et qui a eu, en plus de ça, des brevets et qui a rapporté beaucoup d'argent à la marque. Donc, c'est possible. C'est possible. Je ne suis pas en train de vous dire, allez travailler dans le domaine des voitures. Je suis en train de vous dire, c'est possible. D'accord? Ici, c'est la petite Fanny. Eh bien, la petite Fanny, elle voulait des choses concrètes. Elle est ingénieure. Et puis, finalement, elle produit 20 tonnes d'acier avec son équipe, hein, toutes les 2 heures. Et puis, elle est toute fière d'avoir ça dans les voitures qui circulent. Quand elle voit une voiture, elle dit, ah, il y a probablement de l'acier que nous avons fabriqué, mon équipe et moi. Et puis tout ce qui lui plaît, c'est le travail en équipe, les responsabilités, et puis de pouvoir articuler son métier, sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et elle est très féminine par ailleurs. Sophie, elle a plutôt choisi un métier, on va dire, où il y a beaucoup d'hommes, puisque c'est chez un fournisseur de logiciels, où là, eh bien, on ne sait pas souvent que Ada a créé l'informatique, et où il y a bien plus de garçons que de filles. Et là aussi, quand on parle de geek, on parle des garçons, pas tellement des filles. Et là, du coup, ben, on peut avoir des postes à responsabilité, des postes très intéressants, passionnés, travailler en équipe, là aussi, et être bien payé, avoir de bonnes rémunérations, et même si on est une fille. Alors, je n'ai pas pris d'exemple pour les garçons, mais je vous l'ai dit, hein, vous pouvez aussi. Le métier de sage-femme est un métier où il y a beaucoup de femmes. Alors, on m'a dit l'autre jour, ah, mais s'il y avait des hommes, on appellerait ça sage-homme, on serait obligé de changer le nom. Non. Parce que sage-femme, ça vient de la femme qui est en train d'accoucher. C'est la femme qui est en train d'accoucher qu'on dit sage-femme. D'accord? Donc, le métier de sage-femme, c'est d'accoucher les femmes. Donc, les hommes seront sage-femme aussi, ça ne gêne en rien. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'homme qui accouche. Enfin, on ne sait pas faire en biologie. Hein. Ce n'est pas demain la veille que ça viendra. Bon, alors comment est-ce que vous devez commencer à réfléchir? Comment est-ce qu'on devient scientifique? Est-ce que finalement les sciences, ça m'attire ou pas? Qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Et puis surtout, déconstruisez les stéréotypes qu'on vous inculque. Vous discutez avec votre famille, vous discutez avec vos amis, avec vos proches, avec plein de gens. Donc il y en a qui ont des idées modernes. Mais il y en a d'autres qui sont un peu réfractaires, ils ont peur du changement. Il ne faut pas avoir peur du changement. Et surtout, l'important pour choisir votre métier, votre filière, parce que ma collègue va vous présenter toutes les filières de la Fac des sciences, eh bien, c'est la passion, c'est l'intérêt, la curiosité qui doit vous conduire à faire ces choix. Même si vous ne connaissez pas, renseignez-vous et vous allez découvrir. C'est ce qui montre qu'en troisième, vous allez peut-être faire un choix, qu'en terminale, vous aurez fait un autre choix, et que peut-être après dans le supérieur encore un autre choix, tout simplement parce que vous rencontrez des gens au fur et à mesure de votre vie et ces gens-là ont une influence sur vos choix parce qu'ils vous font découvrir des choses que vous ne connaissiez pas et qui pourtant sont passionnantes. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez une ou deux questions, peut-être, et après on laisse la parole à Véronique. Est-ce qu'il y a des questions ou... Alors nous deux, on est scientifiques, on est normal. Moi, j'ai deux enfants. J'en ai une qui est mécanicienne, justement, qui travaille dans l'aéronautique, qui était à Toulouse et qui vient d'être récupérée par un chasseur de tête et elle vient de partir s'installer en Angleterre. Tout simplement parce qu'elle sera bien mieux payée et elle aura une plus grosse équipe sous sa responsabilité. Et ma fille, c'est quelqu'un de volontaire. Hein, c'est pas étonnant, on va dire. Les chiens ne font pas des chats. Donc, ça veut dire qu'il y a des possibilités. Donc, on a des enfants, on a une vie normale, on a des loisirs, on travaille, on est passionné par ce qu'on fait. Et finalement, ben c'est ça la vie. C'est d'être contente, heureuse et puis de pouvoir progresser. Est-ce qu'il y a des questions ou pas ? Pas de questions ? Super, alors. Ou alors, vous n'osez pas. Bon, vous avez mon mail. Si vous faites un petit exercice après et que vous voulez me poser des questions, vous pourrez le faire. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir résisté. Bonne chance pour la suite. Et je retourne au labo. J'ai des manips sur le feu. Merci.
Je vois Cyril, puis je dis, mais je comprends pas, l'intervenante n'est pas là. Elle me dit, elle est comment, la dame ?
Et puis, je suis allée en avance pour en regarder, parce que là, où sont les personnes ? Alors, j'ai pris les deux stands, SFA et biologie.
D'accord. Alors que moi, je me suis dit, j'espère qu'il est venu arriver. Hein.
Bon, enfin, il n'y avait pas eu le temps.
De faire le plus rapide possible.
Non, mais c'est bon. Je peux emmener ça avec moi.
Voilà, c'est bon.
On va inverser, on va le mettre de ce côté-là s'il est capricieux.
Non, je préfère ça.
De toute façon, il suffit de l'enlever d'ici. Hein. C'est comme vous voulez.
D'accord.
Voilà.
J'avais mon flash. Oui, j'avais mon petit. Voilà.
Bon, tout va bien.
Bonjour à tous. Alors je vais essayer d'être aussi passionnante que Patricia. Donc vous avez une deuxième femme. Et alors comme ça pour la petite histoire, j'espère que dans moins de 5 ans, Nicole Ledouarin, qui est une grande scientifique française, aura le prix Nobel. Ça fait partie des nobélisables. Donc j'espère qu'on aura un exemple français. Alors je vais essayer d'aller assez vite. Donc l'université de Poitiers et plus particulièrement donc les sciences fondamentales et appliquées est l'une des 14 composantes de l'Université de Poitiers. Là, c'est la grande université et les services centraux. Un bâtiment très ancien, puisque notre université est très ancienne. Donc, deux campus. Le campus Nord, Futuroscope, pour ce qu'on appelle les sciences dures, mathématiques, physique, informatique, électronique et mécanique. Et le campus Sud, Poitiers, qui lui est chimie. La chimie, normalement, fait partie des sciences dures. Hein. Mais il y a beaucoup d'interactions, chimie-biologie aussi. Donc, chimie, ça marche. Chimie, biologie, géologie et paléontologie. Donc, vous aurez le choix, en fait, entre deux portails. Un portail dit sciences dures avec la chimie qui est là. Et puis, un portail SVG. Oh, merci. D'accord, très bien. Sciences fondamentales et appliquées côté bio, géologie, paléontologie. Je pense que vous savez tous que si le parking de la gare s'appelle Toumaï, c'est parce que Toumaï a été découvert par les scientifiques de paléontologie de Poitiers. Alors, en quelques chiffres, on va passer assez vite. Simplement, quelques chiffres d'étudiants. Hop. 1435 inscrits. 85 en licence professionnelle, donc je vous parlerai tout à l'heure vite fait des licences professionnelles. Des Erasmus, parce que chaque année, on a des étudiants qui viennent nous voir, et puis chaque année, on a des étudiants qui partent à l'étranger. Donc pensez, si vous avez envie de partir à l'étranger, pensez-y, il faut y penser relativement très tôt, parce que c'est long à mettre en place, mais c'est super important et c'est très utile. Et puis, pour vous montrer que vous serez bien encadré, énormément de personnel, des enseignants-chercheurs, mais aussi secrétaires, personnel administratif et technique. Et vous voyez qu'en enseignants-chercheurs, les dames sont quand même présentes. Côté recherche, 9 laboratoires. Donc, comme vous êtes encore tout jeune, on va passer les laboratoires parce qu'on n'en est pas encore là. 4 grands pôles de recherche quand même, puisque l'enseignement va être aussi donc, accès à ces grands pôles de recherche. Biologie santé, sciences pour l'environnement, sciences et ingénierie en matériaux mécaniques, énergétiques et aéronautiques, et mathématiques, sciences et ingénierie pour l'information. Et puis on a de nombreux partenariats, aussi bien avec les institutions qu'avec des grands groupes industriels et financiers et des entreprises locales et régionales. Alors, côté recherche Toumaï, on va passer. Donc, 3 sorties possibles. Je pense que vous savez tous qu'on est passé maintenant en LMD, licence, master, doctorat. Donc, bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8. Licence, vous avez le choix en fait entre une licence généraliste ou professionnelle. Mais ne vous inquiétez pas, au départ, tout le monde entre sur un portail L. Vous êtes en première année, on ne vous demande pas encore de faire des choix. Très important. Donc, la licence, de toute façon, quelle qu'elle soit, c'est 3 années après le bac, donc L1, L2, L3. Et comme l'année est séparée en semestres, ça vous fait 6 semestres en tout, chaque année comptant 2 semestres. Et puis, on va passer master et doctorat, parce que là, vous avez encore nettement le temps. Et donc, l'important en licence, c'est que lorsque vous allez vous inscrire, vous avez le choix entre 2 portails. Et une fois que vous avez choisi ces portails, vous ne pouvez pas tellement passer de l'un à l'autre. Et donc, ces portails, vous avez d'un côté sciences de la vie et de la terre, et puis de l'autre côté, ce qu'on appelle mathématiques, informatique, ingénierie, physique, chimie. Et une fois que vous avez choisi ces portails, vous continuez toujours dans ces portails. Par contre, après, une fois que vous êtes dans le portail bleu, là, eh bien, vous allez avoir différents choix d'options, différents choix de parcours. Et là, d'une année à l'autre, vous pourrez changer si vous voulez. Il y a toujours des passerelles parce qu'on comprend bien que choisir, c'est difficile. Et pour choisir, en première année, eh bien, on vous saupoudre en fait, eh bien, les différentes sciences que l'on va vous enseigner pour pouvoir eh bien, faire un choix le plus, on va dire, sûr pour vous, Mais on comprend bien que ce n'est pas si facile que ça, parce qu'on vous demande toujours des choses très, très tôt. Et puis là, en bleu et en jaune, les métiers de l'enseignement. Eh bien, si vous voulez devenir professeur, eh bien, quel que soit le portail, vous pourrez le devenir sans aucun souci. Sachant que maintenant, il faut être jusqu'au master. Donc, 35 diplômes en tout et plus de 500 métiers. Et alors, si vous ne savez pas exactement ce qui vous intéresse, ce que je conçois, je vous conseille fortement d'aller sur ce site, donc vocascience.fr. C'est un site, en fait, qui vous indique un certain nombre de métiers en relation avec les formations. Ce qui fait que si vous êtes intéressé par une formation parce que vous avez là tout ce qui vous plaît, vous pourrez regarder la liste des métiers qui correspondent à cette formation. Et vice-versa, si vous avez un métier qui vous intéresse bien, eh bien vous pourrez voir quelle formation est la plus adéquate pour ce métier. Donc c'est, je pense, très intéressant. Ça va ? Je ne vais pas trop vite ? Alors, en L1, donc nous avons toujours ces deux portails-là, hein, sans problème. Je vais vous parler d'un peu de ces briques vertes qui est le cursus master en ingénierie et qui existe sur les deux portails. Alors, partout, sauf en mathématiques pour les sciences dures et sur le côté biologie-santé, pour le côté bio, il n'y a pas encore de CMI au niveau de sciences de la Terre. Alors, ces briques vertes, le cursus master en ingénierie, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait des choses en plus par rapport à ce que vous faites normalement. Ce en plus vous apporte derrière, au bout de la cinquième année, le niveau ingénieur. Et le niveau ingénieur, par exemple, en biologie santé, c'est des choses qui ont été demandées par les entreprises pharmaceutiques qui se plaignaient que les écoles d'ingénieurs ne formataient pas les ingénieurs en biologie santé. Et donc, on a des partenariats avec des entreprises pharmaceutiques, notamment, ce qui fait que les étudiants qui sont sur ces briques vertes-là, eh bien, peuvent commencer à faire des stages dans ces industries pharmaceutiques. Si ça se passe bien, ça continue au niveau du master. Et généralement, le but du jeu, eh bien, c'est d'embaucher ces jeunes qu'ils n'ont pas sur le panel des ingénieurs des autres écoles. Côté briques vertes, sciences dures, donc vous avez le choix physique, chimie, sciences pour l'ingénieur, informatique. Mais par contre, si c'est les maths qui vous intéressent, les maths, à l'heure actuelle, on n'a pas la plaque CMI pour les maths. D'accord ? Donc, bien sûr, vous continuez. Et puis, il y a les masters. Mais là, c'est pareil, je vais passer comme ça. Il existe aussi, pour les gens qui sont intéressés par les sciences dures, le parcours renforcé. Le parcours renforcé, c'est lorsque vous aimez beaucoup les maths, la physique, la chimie, vous avez envie d'être ingénieur. Eh bien, il y a une dizaine d'écoles qui ont fait un partenariat avec l'Université de Poitiers pour former en 2 ans, avec un volume horaire renforcé, c'est-à-dire que vous faites tout ce que font les L1 classiques, mais vous faites des choses en plus. Et derrière, au bout des 2 ans, vous pourrez intégrer seulement sur titre, l'un des 10 écoles d'ingénieurs partenaires. Ça veut dire que vous ne passez pas le concours, vous n'avez pas le stress du concours et vous êtes sûr d'avoir l'une des 10 écoles puisqu'il n'y a pas de concours. Une double évaluation, donc le 10 sur 20, ça c'est le L1 et le L2 classique, avec le parcours renforcé. Il vous faut une moyenne de 12 sur 20 sur l'ensemble de la formation pour pouvoir intégrer. Mais si vous êtes bon en maths, physique, si l'une des 10 écoles partenaires vous intéresse, ça vaut le coup. Donc, voici la liste des 10 écoles partenaires. Donc, ça, vous pourrez regarder aussi sur le site, il n'y a pas de souci. Typiquement sur Poitiers, l'ANSMA et l'ENSIP, qui sont les 2 écoles d'ingénieurs de Poitiers, bien sûr, participent à ce système-là. Donc, 10 écoles, 3-4 places par école. Généralement, on a une promo de 20. Donc, vous voyez qu'il y a toujours des places non prises. Pour le cursus master en ingénierie, donc les labels briques vertes que je vous ai présentés tout à l'heure, vous voyez Poitiers ici, vous voyez que c'est national, en fait. Donc, derrière, c'est au bout de la licence. vous voulez continuer ailleurs pour quitter Poitiers, vous pouvez. Vous regardez dans la liste des universités partenaires pour voir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Et là, au niveau du CMI, vous pouvez aller regarder sur le site réseau-figure.fr. Donc là, je vais passer parce que j'ai déjà dit. Donc ça, tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu des relations internationales. On a en fait une licence qui débouche sur un master Erasmus Mundus, donc relations internationales, où là, en fait, vous faites le stage à l'étranger. Vous pratiquez une langue courante, voire deux, et vous avez ce label mondial. Donc ça, c'est en partenariat avec d'autres universités, donc mondiales, et c'est très demandé aussi. Alors, il existe des licences professionnelles. Tout à l'heure, je vous ai dit, lorsque vous inscrivez, vous vous inscrivez en licence. Ne vous inquiétez pas, on ne vous demande pas tout de suite est-ce que vous voulez vous arrêter en L3. Dans ce cas-là, il est conseillé de prendre une licence professionnelle, L3 Pro, ou si vous voulez continuer plutôt en master, et dans ce cas-là, il est plutôt conseillé de prendre la L3 classique. Alors, les licences pro existent aussi bien sur le parcours portail SVG que le portail donc sciences dures. Donc, en L3 Pro, vous avez technico-commercial en instrumentation biotechnologique et biomédicale. Là aussi, ça a été demandé par les boîtes qui nous vendent du matériel et des produits des réactifs chimiques, parce qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'ils nous rencontraient, si on avait quelqu'un qui était uniquement commercial, ça passait pas, parce que généralement, nous, si on est intéressé, on a des questions quand même très pratiques, très scientifiques derrière, et donc si on n'a qu'un commercial, on se dit on peut pas avoir toutes les réponses et ça passe pas. Usage et qualité des eaux, donc à l'heure actuelle c'est très demandé aussi, hein, y a énormément de débouchés parce que c'est quand même un gros problème actuel. Et puis de l'autre côté, donc des sciences dures, automation et robotique, technologie logicielle pour le web et les terminaux mobiles. Lorsque vous avez décidé en troisième année de prendre une L3 Pro, derrière en fait vous allez sur le marché du travail. Si vous voulez après continuer, parce que vous vous dites, oh, quand même, je suis bon, c'est dommage de m'arrêter là, le souci, c'est qu'il faudra passer par une commission. Ce n'est pas automatique de passer en master. D'accord ? Et donc, comme les places de master sont chères et qu'il y a aussi quand même de la sélection avec de la motivation derrière, quelqu'un qui a fait une L3 Pro, on se dit au départ, elle n'est pas forcément motivée pour faire un master. Donc, il faut se méfier. Il faut vraiment être sûr de son choix. Alors, la licence, comment ça marche ? Donc, je vous ai parlé des semestres. Donc, 5 briques et un stage obligatoire lors de la troisième année. Alors, on a à peu près 14 semaines d'enseignement. Alors, c'est au minimum parce qu'en fonction des années, ça change. 300 heures de présentiel et 80% d'enseignement disciplinaire. 20% de compétences additionnelles. Donc, qu'est-ce que c'est ces compétences additionnelles ? C'est l'anglais. Il est impératif d'être bon en anglais. Communication, préparation à la vie professionnelle. Préparation à la vie professionnelle, on vous donne une méthodologie en L1 et au deuxième semestre, vous faites des interviews sur un métier que vous avez choisi avec donc des professionnels du métier que vous avez choisi. CM, donc c'est en amphithéâtre, donc vous êtes nombreux. TD, groupe de 36 étudiants maximum. Et TP, groupe de 18 étudiants maximum. Donc TD, TP, en L1, fiche de présence. Les absences injustifiées sont donc connues. Donc faites attention. Et c'est ce que je disais, lorsque on vous parle des taux de réussite, lorsque vous regardez les choses générales, c'est sur tous les inscrits. Et donc, chaque année, on a un certain nombre de fantômes, de gens qu'on ne voit jamais, qu'on ne voit pas non plus le jour des examens. Donc, vous comprenez bien qu'on ne peut pas donner le diplôme à quelqu'un qui n'est jamais là et qui n'a pas passé l'examen. Si on regarde sur les présents, forcément, les informations sont nettement supérieures à celles que vous imaginez. L'offre de formation prépare, en fait, à des choix successifs. Et donc, vous allez pouvoir vous-même construire eh bien, votre parcours, quelque chose qui est cohérent avec ce que vous voulez. Et tout ça parce que l'important, c'est que vous soyez le plus motivé possible. À compétence égale, à diplôme égal, ce qui va changer la donne, c'est la motivation. Un environnement de travail actuel et performant, ça, il n'y a pas de souci. On vous prépare à la vie professionnelle, l'idée que la fac... Bon, c'est que des connaissances, mais sans plus. C'est totalement faux. Ouverte à l'international, ça, c'est, ça vous permet d'avoir un plus sur votre CV. Et toujours des passerelles pour vous conforter dans votre parcours le plus personnalisé pour vous. Alors, pas encadré, dès la première année, vous avez des référents. Donc, les référents, c'est des gens qui vous suivent. Je ne vais pas dire qu'ils vous surveillent, mais chaque référent a une vingtaine d'étudiants. Donc, on peut vous suivre, on peut. Donc, n'hésitez pas à aller les voir s'il y a besoin. Très peu occupé, donc 30 heures d'enseignement personnel. Donc, la première semaine, c'est vrai que vous n'avez que les cours. Puis après, vous allez avoir les TD. Et puis après, vous aurez toujours cours, TD, TP. Lorsque vous avez des TP derrière et vous avez des comptes rendus de TP à rédiger, et en plus vous allez avoir des contrôles continus parce qu'au premier semestre, on fait tout en contrôle continu comme au lycée pour que vous puissiez entrer dans le système « je travaille à l'université » même si j'avais l'idée que je ne travaillerais pas beaucoup. Ça aussi, c'est un stéréotype. Donc, 80% des étudiants présents aux examens valident leur première année. Et on a une bonne insertion professionnelle. Donc là, vous avez des chiffres pour vous montrer qu'en effet, nous formons des jeunes qui trouvent un emploi derrière. Et puis, 80% de nos étudiants, voire plus, sont satisfaits de leur formation. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.